Aristote, Politique, livre 3, chapitre 5. Sommaire. Division des gouvernements. Gouvernement pur, royauté, aristocratie, république. Gouvernement corrompu, tyrannie, oligarchie, démagogie. Les objections faites contre cette division générale ne reposent que sur des hypothèses et non sur des faits. Dissentiment des riches et des pauvres sur la justice et le droit politique. Les uns et les autres ne voient qu'une partie de la vérité. Notion exacte et essentielle de la cité et de l'association politique, qui ont surtout en vue la vertu et le bonheur des associés, et non pas seulement la vie commune. Solution générale du litige entre la richesse et la pauvreté. Paragraphe 1. Le gouvernement et la constitution étant choses identiques, et le gouvernement étant le maître suprême de la cité, il faut absolument que ce maître soit ou un seul individu, ou une minorité, ou enfin la masse des citoyens. Quand le maître unique, ou la minorité, ou la majorité gouverne dans l'intérêt général, la constitution est nécessairement pure. Quand ils gouvernent dans leur propre intérêt, soit dans l'intérêt d'un seul, soit dans l'intérêt de la minorité, soit dans l'intérêt de la foule, la constitution est déviée de son but, puisque, de deux choses l'une, ou les membres de l'association ne sont pas vraiment citoyens, ou s'ils le sont, ils doivent avoir leur part de l'avantage commun. Paragraphe 2. Quand la monarchie ou gouvernement d'un seul a pour objet l'intérêt général, on la nomme vulgairement royauté. Avec la même condition, le gouvernement de la minorité, pourvu qu'elle ne soit pas réduite à un seul individu, c'est l'aristocratie, ainsi nommée, soit parce que le pouvoir est aux mains des gens honnêtes, soit parce que le pouvoir n'a d'autre objet que le plus grand bien de l'État et des associés. Enfin, quand la majorité gouverne dans le sens de l'intérêt général, le gouvernement reçoit comme dénomination spéciale la dénomination générique de tous les gouvernements et se nomme République. Paragraphe 3. Ces différences de dénomination sont fort justes. Une vertu supérieure peut être le partage d'un individu d'une minorité. Mais une majorité ne peut être désignée par aucune vertu spéciale, excepté toutefois la vertu guerrière, qui se manifeste surtout dans les masses. La preuve, c'est que dans le gouvernement de la majorité, la partie la plus puissante de l'État est la partie guerrière, et tous ceux qui ont des armes y sont citoyens. Paragraphe 4. Les déviations de ces gouvernements sont la tyrannie pour la royauté, l'oligarchie pour l'aristocratie, la démagogie pour la république. La tyrannie est une monarchie qui n'a pour objet que l'intérêt personnel du monarque. L'oligarchie n'a pour objet que l'intérêt particulier des riches. La démagogie, celui des pauvres. Aucun de ces gouvernements ne songe à l'intérêt général. Il faut nous arrêter quelques instants à bien noter la différence de chacun de ces trois gouvernements, car la question offre des difficultés. Quand on observe les choses philosophiquement et qu'on ne veut pas se borner seulement aux faits pratiques, on doit quelques méthodes d'ailleurs qu'on adopte, n'omettre aucun détail et n'en négliger aucun, mais les montrer tous dans leur vrai jour. Paragraphe 5. La tyrannie, comme je viens de le dire, est le gouvernement d'un seul, régnant en maître sur l'association politique. L'oligarchie est la prédominance politique des riches. Et la démagogie, au contraire, la prédominance des pauvres à l'exclusion des riches. On fait une première objection contre cette définition même. Si la majorité maîtresse de l'État est composée de riches, et que le gouvernement de la majorité soit appelé la démocratie, et réciproquement, si par hasard les pauvres, en minorité relativement aux riches, sont cependant par la supériorité de leurs forces maîtres de l'État, et si le gouvernement de la minorité doit être appelé l'oligarchie, les définitions que nous venons de donner deviennent inexactes. Paragraphe 6. On ne résout même pas cette difficulté en réunissant les idées de richesse et de minorité, celles de misère et de majorité, et en réservant le nom d'oligarchie pour le gouvernement où les riches en minorité occupent les emplois et celui de démagogie pour l'État où les pauvres en majorité sont les maîtres. Car comment classer les deux formes de constitution que nous venons de supposer? L'une où les riches forment la majorité, l'autre où les pauvres forment la minorité, souverains les uns et les autres de l'État. Si toutefois quelques autres formes politiques n'ont point échappé à notre énumération. Paragraphe 7. Mais la raison nous dit assez que la domination de la minorité et celle de la majorité sont choses tout accidentelles, celle-ci dans les oligarchies, celle-là dans les démocraties, parce que les riches forment partout la minorité comme les pauvres forment partout la majorité. Ainsi, les différences indiquées plus haut ne sont pas de véritables difficultés. Ce qui distingue essentiellement la démocratie et l'oligarchie, c'est la pauvreté et la richesse. Et partout où le pouvoir est aux riches, majorité ou minorité, c'est une oligarchie. Partout où il est aux pauvres, c'est une démagogie. Mais il n'en est pas moins vrai, je le répète, que généralement les riches sont en minorité, les pauvres en majorité. La richesse n'est qu'à quelques-uns, mais la liberté est à tous. Ce sont là, du reste, les causes des dissensions politiques entre les riches et les pauvres. Paragraphe 8. Voyons d'abord quelles sont, des deux parts, les limites qu'on assigne à l'oligarchie et à la démagogie, et ce qu'on appelle le droit dans l'une et dans l'autre. Les deux côtés, également, revendiquent un certain droit qui est bien réel. Mais de fait, leur justice ne va que jusqu'à un certain point. Et ce n'est pas le droit absolu qu'établissent ni les uns ni les autres. Ainsi, l'égalité paraît le droit commun, et sans doute elle l'est, non pas pour tous cependant, mais seulement entre égaux. Et de même pour l'inégalité. Elle est certainement un droit, non pas pour tous, mais bien pour des individus inégaux entre eux. Si l'on fait abstraction des individus, on risque de porter un jugement erroné. C'est qu'ici, les juges sont juges et partis, et l'on est ordinairement mauvais juge dans sa propre cause. Paragraphe 9. Le droit restreint à quelques-uns, pouvant s'appliquer aussi bien aux choses qu'aux personnes, comme je l'ai dit dans la morale, l'on s'accorde sans peine sur l'égalité même de la chose, mais pas le moins du monde sur les personnes à qui cette égalité appartient. Et cela, je le répète, tient à ce qu'on juge toujours fort mal quand on est intéressé. Parce que les uns et les autres expriment une certaine portion du droit, ils croient qu'ils expriment le droit absolu. D'une part, supérieurs en un point, en richesse par exemple, les uns se croient supérieurs en tout. D'autre part, égaux en un point, en liberté par exemple, les autres se croient absolument égaux. On oublie des deux côtés de dire l'objet capital. Paragraphe 10. Si l'association politique n'était en effet formée qu'en vue des richesses, la part des associés serait dans l'État en proportion directe de leur propriété, et les partisans de l'oligarchie auraient alors pleine raison, car il ne serait pas équitable que l'associé qui n'a mis qu'une mine sur 100 eût la même part que celui qui aurait fourni tout le reste, qu'on applique à ceci à la première mise ou aux acquisitions postérieures. Paragraphe 11. Mais l'association politique a pour objet non pas seulement l'existence matérielle des associés, mais leur bonheur et leur vertu. Autrement, elle pourrait s'établir entre des esclaves ou des êtres différents des hommes, qui ne la forment point cependant, étant incapables de bonheur et de libre arbitre. L'association politique n'a point non plus pour objet unique l'alliance offensive et défensive entre les individus, ni leurs relations mutuelles, ni les services qu'ils peuvent se rendre. Car alors, les Étrusques et les Carthaginois, et tous les peuples liés par des traités de commerce, devraient être considérés comme citoyens d'un seul et même État, grâce à leurs conventions sur les importations, sur la sûreté individuelle, sur les cas de guerre commune, ayant, du reste, chacun des magistrats séparés sans un seul magistrat commun, pour toutes ces relations. Parfaitement indifférents à la moralité de leurs alliés respectifs, quelque injustes et quelque pervers que puissent être ceux qui sont compris dans ces traités, et attentifs seulement à se garantir de tout dommage réciproque. Mais, comme c'est surtout à la vertu et à la corruption politique que s'attachent ceux qui regardent à de bonnes lois, il est clair que la vertu est le premier soin d'un État qui mérite vraiment ce titre et qui n'est pas un État seulement de nom. Autrement, l'association politique est comme une alliance militaire de peuples éloignés, s'en distinguant à peine par l'unité de lieu. La loi, dès lors, est une simple convention. Et, comme l'a dit le sophiste Lycophron, elle n'est qu'une garantie des droits individuels sans aucune puissance sur la moralité et la justice personnelle des citoyens. Paragraphe 12. La preuve de ceci est bien facile. Qu'on réunisse par la pensée les localités diverses et qu'on enferme dans une seule muraille, Mégare et Corinthe. Certes, on n'aura point fait par là de cette vaste enceinte une cité unique, même en supposant que tout ce qu'elle renferme ait contracté entre eux des mariages, liens qui passent pour les plus essentiels de l'association civile. Ou bien encore, qu'on suppose des hommes isolés les uns des autres, assez rapprochés toutefois pour conserver des communications entre eux. Qu'on leur suppose des lois communes sur la justice mutuelle qu'on doit observer dans les relations de commerce, les uns étant charpentiers, les autres laboureurs, cordonniers, etc., au nombre de 10 000, par exemple. Si leurs rapports ne vont pas au-delà des échanges quotidiens et de l'alliance en cas de guerre, ce ne sera point encore là une cité. Paragraphe 13. Et pourquoi ? Ici, pourtant, on ne dira pas que les liens de l'association ne sont pas assez resserrés. C'est, que là où l'association est telle que chacun ne voit l'État que dans sa propre maison. Là où l'union est une simple ligue contre la violence. Il n'y a point de cité à y regarder de près. Les relations de l'union ne sont alors que celles des individus isolés. Donc, évidemment, la cité ne consiste pas dans la communauté du domicile, ni dans la garantie des droits individuels, ni dans les relations de commerce et d'échange. Ces conditions préliminaires sont bien indispensables pour que la cité existe. Mais, même quand elles sont toutes réunies, la cité n'existe point encore. La cité, c'est l'association du bonheur et de la vertu pour les familles et pour les classes diverses d'habitants, en vue d'une existence complète qui se suffise à elle-même. Paragraphe 14. Toutefois, on ne saurait atteindre un tel résultat sans la communauté de domicile et sans le secours des mariages. Et c'est là ce qui a donné naissance dans les États aux alliances de famille, aux fratries, aux sacrifices publics et aux fêtes qui réunissent les citoyens. La source de toutes ces institutions, c'est la bienveillance, sentiment qui pousse l'homme à préférer la vie commune. Le but de l'État, c'est le bonheur des citoyens, et toutes ces institutions-là ne tendent qu'à l'assurer. L'État n'est qu'une association où les familles réunies par bourgade doivent trouver tous les développements, toutes les facilités de l'existence, c'est-à-dire, je le répète, une vie vertueuse et fortunée. Ainsi donc, l'association politique a certainement pour objet la vertu et le bonheur des individus, et non pas seulement la vie commune. Paragraphe 15. Ceux qui apportent le plus au fond général de l'association. Ceux-là ont dans l'État une plus large part que ceux qui, égaux ou supérieurs par la liberté, par la naissance, ont cependant moins de vertus politiques. Une plus large part que ceux qui, l'emportant par la richesse, le cèdent toutefois en mérite. Paragraphe 16. Je puis conclure de tout ceci qu'évidemment, dans leurs opinions si opposées sur le pouvoir, les riches et les pauvres n'ont trouvé les uns et les autres qu'une partie de la vérité et de la justice.